VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique du Nord. Politique en Tunisie. À peine le premier tour de la présidentielle terminé, les candidats qualifiés au second tour ont déjà les yeux rivés sur les législatives prévues le 6 octobre. Les élections parlementaires devraient redessiner le paysage politique du pays. Abdourahmane Dia.
Le candidat indépendant Kais Saied, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche, a écarté hier l'idée d'une alliance avec des partis à 3 semaines des législatives. Il n'y a pas d'alliance entre des partis politiques ou avec un parti ou une coalition de partis. Il y a un projet, a déclaré Kais Saied. Le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui a de son côté appelé à la mobilisation pour les législatives du 6 octobre. On souhaite tous que la deuxième étape permette aux Tunisiens de choisir leurs représentants au Parlement et à la présidence de la République, a déclaré Hatem Maliki, porte-parole de Nabil Karoui, incarcéré depuis le 23 août dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Le dirigeant du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, arrivé troisième, a également appelé ses partisans à voter en nombre à ce scrutin afin de peser dans la composition du gouvernement. Il a souligné qu'il revenait à l'organe consultatif du mouvement de décider quel candidat soutenir au second tour de la présidentielle prévue le 6 ou le 13 octobre.
En Algérie voisine, des milliers d'étudiants ont manifesté dans les rues d'Alger mardi, 2 jours après l'annonce par le pouvoir de la tenue d'une présidentielle le 12 décembre. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation. Irénée Hermanoumbo.
Des tensions sont apparues quand la police a empêché les manifestants d'avancer jusqu'à la Grande Poste, symbole de la contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Selon des témoins, la police a arrêté au moins 10 manifestants et confisqué les téléphones portables des personnes qui avaient filmé les interpellations. Les étudiants manifestent chaque mardi depuis plusieurs mois. Des rassemblements plus larges ont lieu chaque vendredi. La manifestation d'hier était le premier rendez-vous depuis l'annonce dimanche par le pouvoir de la tenue d'une élection présidentielle le 12 décembre. Le mouvement de contestation rejette la tenue d'un scrutin et demande le départ de l'ensemble du système au pouvoir depuis 2 décennies. Une précédente tentative d'organiser une présidentielle le 4 juillet avait échoué en l'absence de candidats.
La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant, la situation de Kidal, grande ville du nord-est du Mali, suscite l'inquiétude des pays de la sous-région pour lesquels cette localité servirait de base arrière à des djihadistes. Une accusation lancée haut et fort par le président du Niger, Mahamadou Issoufou, début septembre et répétée au milieu du mois par Maman Sidikou, secrétaire général du G5 Sahel, la force régionale engagée dans la lutte contre les djihadistes. Kidal fait partie des zones du Mali qui échappent de facto à l'autorité de l'État. Prise en 2012 par les rebelles salafistes, elle est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, sous le contrôle des ex-rebelles séparatistes Touareg de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Résultat de la controverse, la réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger, initialement prévu à Kidal hier mardi, a été reporté. Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, l'armée congolaise a annoncé aujourd'hui avoir abattu hier soir Sylvestre Munda Tchoumoura, le commandant des FDLR, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, dans le territoire de Rutshuru, région de l'est du pays, proche du Rwanda. Sylvestre Munda Tchoumoura était recherché par la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui pour 9 chefs d'accusation, notamment pour meurtre, viol et torture. Au Congo-Brazzaville, la ministre de la Promotion de la Femme, Inès Nefer Ingani, a été démise de ses fonctions mardi après la divulgation sur les réseaux sociaux de la remise d'une importante somme d'argent au chef de file de l'opposition par les services de la présidence. Selon certaines sources, la ministre Ingani aurait favorisé cette publication de Brazzaville. Notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Dans le décret qui démet Inès Nefer Ingali de ses fonctions, le président de la République n'en souligne pas la cause. Mais la semaine dernière, le chef de file de l'opposition, Pascal Tatsimabiala, et son parti, l'UPADS, avaient réclamé sa tête, menaçant de la traduire en justice pour propos diffamatoires. En effet, une conversation téléphonique qui impliquerait la désormais ex-ministre de la Femme et un jeune cadre du PCT, le parti au pouvoir, dévoilait que le chef de l'opposition avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de la présidence de la République. Conséquence, le chef de l'État et son premier ministre n'ont pas hésité de faire partir la ministre qui est par ailleurs députée à Brazzaville. Nefer Ingali n'a pas eu de la chance car quelques mois avant, une autre conversation téléphonique impliquant une ministre et un officier supérieur de la police s'était retrouvée sur les réseaux sociaux mais sans coûter un quelconque poste. De la mémoire récente de la politique du Congo, jamais un ministre n'a été viré du gouvernement, fit-il par décret présidentiel. C'est toujours par remaniement ou réaménagement que les ministres, même démissionnaires, quittent le gouvernement. Le cas Ingali est donc emblématique et devrait interpeller sur le fait que les réseaux sociaux sont en train de devenir une arme politique très redoutable au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Congo, le Ghana a lancé une initiative visant à encourager la visite des Africains et Américains cette année, 400e anniversaire du début du tristement célèbre commerce triangulaire. À Accra, une chef cuisinière revenue sur la terre de ses ancêtres attend ses visiteurs américains pour leur donner un avant-goût des repas du terroir. Un reportage de Stacy North à Accra, le récit est de Lionel Gaïma.
Dans son restaurant en bordure de route à Accra, la chef cuisinière sage prépare les plats assaisonnés aux épices ramenées des États-Unis, des Caraïbes et du Ghana. L'odeur des hamburgers aux lentilles flotte dans l'air pendant que les clients attendent à l'extérieur, assis autour de table.
J'ai cette influence du Sud. Ma grand-mère faisait du pain de maïs et des pâtes au fromage. Toute la nourriture soule des Noirs américains, mais également l'influence des Caraïbes. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vivant en Afrique savent que les aliments dans les Caraïbes sont si semblables parce que vous avez des descendants directs de l'Afrique aux Caraïbes.
You have direct descendants coming from Africa to the Caribbean.
La chef cuisinière préfère n'est pas donné son vrai nom. Elle dit avoir de plus en plus des clients africains-américains venus au Ghana dans le cadre de l'année du retour, marquant le 400e anniversaire du début de la traite des esclaves. Ils sont assis à côté de clients habituels pendant que la propriétaire du restaurant et sa famille préparent des ragoûts à base de légumes. La chef cuisinière est née à Brooklyn, dans la ville de New York. Très jeune, elle a déménagé à Sainte-Croix, dans les îles Vierges, et en 2005, elle est venue s'installer au Ghana.
Lorsque les Africains-Américains viennent au Ghana, considérés comme notre patrie, nous sommes heureux. Mais en ce qui concerne la nourriture, vous cherchez toujours ce à quoi vous êtes habitué. J'attire les Africains-Américains parce que j'ai toutes les saveurs dans chaque repas.
Comme traiteur, elle sert aussi des repas à domicile à Accra, avec son café hebdomadaire au bord de la route. Le menu change chaque semaine, variant de la tarte aux patates douces, aux tacos, sans oublier les salades mixtes préparées avec des ingrédients locaux. Pour des clients comme Guizel Industrioso, la nourriture est une affaire de bon goût, mais aussi de communauté.
Il y a quelque chose qui nous rassemble comme un seul peuple et qui peut se ramener à la nourriture.
Essie Bartel, une entrepreneur ghanéenne, explore les liens entre les produits alimentaires du Ghana et ceux des États-Unis. Ces mélanges d'épices et ces sauces veulent montrer les similitudes dans l'art culinaire, en particulier chez ceux qui ont le même héritage africain.
Être capable de trouver tous ces points communs de saveur et les rapprocher, c'est tout ce que j'essaie de faire avec Essie Spice. J'espère que l'année du retour va inciter les gens à voir à quel point le monde est connecté, même du point de vue de la nourriture.
Pour Bartel et la chef cuisinière, cette année est aussi un bon moment pour réfléchir sur l'histoire et le patrimoine commun aux Noirs du monde.
Merci Lionel Gaïma. Et pour terminer, élection en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz sont à égalité dans l'incapacité de former un gouvernement de coalition après dépouillement de la quasi-totalité des votes aux législatives de mardi. C'est ce qu'indiquent ce mercredi les médias israéliens. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.